Ouvrez votre Bible, 2 Timothée, chapitre 4. Quelqu'un dit « Je suis béni ». Répétez après moi, ça fait partie du lot. La bénédiction est dans ma rédemption. Je suis béni. Voilà. Alors, bien. On va, les enfants sont contents de voir le bel œuf de Pâques. Alors, normalement, s'il en reste, on doit en profiter. Mais bon, on va voir un petit peu comment c'est. Vous avez trouvé 2 Timothée chapitre 4. Regardez ce qu'il est dit ici, c'est l'apôtre Paul qui dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Alors, le moment de son départ, il ne va pas dans une autre ville, il est sur le point de partir de cette terre. Il est sur le point de partir de son corps, de mourir physiquement, et remarquez qu'il le sait. Devrions-nous être surpris par le départ d'un proche ? Devrions-nous être surpris par notre propre départ ? C'est-à-dire, un matin... vous quittez cette terre et vous vous réveillez au ciel avec tout le bruit qu'il peut y avoir, avec toute la joie qu'il y a, avec toutes les activités qu'il y a, et vous dites, oulala, où je suis ici, là? Je me réveille dans quel hôtel? Ça vous est arrivé quelquefois quand on voyage, on quitte, on change d'hôtel tous les trois nuits ou autre, et on sait plus où on est. Et certains chrétiens, eh bien, ils vont être un peu comme cela quand ils vont arriver au ciel, parce qu'ils se rendront pas compte qu'ils ont quitté cette terre, parce qu'ils n'ont pas su percevoir le moment de leur départ. Mais l'apôtre Paul était en train de se préparer et il nous laisse ces dernières paroles qui sont des paroles qui sont importantes parce qu'elles sont les dernières. Et en général, on résume ce que l'on veut dire. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et l'apôtre Paul dit quelque chose qui est assez intéressant. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et il n'était pas en train de parler de se battre contre le diable ou contre des démons, puisque vous ne vous battez pas contre quelqu'un qui est déjà vaincu. Vous résistez. Vous accrochez à vos droits. Mais on ne se bat pas contre vous ne vous battez pas contre quelque chose qui vous appartient. Vous vous en saisissez. Hein? Et si quelqu'un veut vous retirer quelque chose qui vous appartient, eh bien, vous résistez pour le garder. Bien. Avec le diable, c'est pareil. Et l'apôtre Paul ici, il dit, j'ai combattu le bon combat. Pourquoi est-il bon? Ben, parce qu'il est gagné d'avance. Il dit, j'ai achevé ma course. Le bon combat, c'était d'achever sa course, et il précise, en gardant la foi. Alors, quand on pense à la course de Paul, eh bien, il a de quoi nous inspirer. Parce que cette course-là n'était pas une course à Hawaï, sur le sable chaud, avec de bons bains de temps en temps, dans une eau à 27 degrés. C'était pas cela. Hein, à boire de la noix de coco toute la journée avec un petit barbecue, un rythme de chant. Non, c'était pas cela. La course que Paul a connue était une course qui a demandé une endurance. Quand on lit qu'il a fait naufrage, il a été en péril. Il a été en péril sur la terre. Il a été en péril dans les mers, en mer. Et s'il avait pris l'avion, il aurait été en péril en avion. Il a été trahi par ceux qu'il pensait être des frères. Il a été abandonné. Il a été tellement abandonné que, à un moment, il a été lapidé et ils l'ont laissé pour mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, ils ont pensé qu'il était mort vu les pierres qu'il avait reçues, mais ils n'ont même pas pris le temps de vérifier s'il était vraiment mort ou s'il était encore agonisant, et l'ont laissé pour mort. Ce sont les disciples qui sont venus, qui l'ont entouré. Et la puissance de résurrection a fait son œuvre et il a retrouvé ses forces. Et la Bible nous dit ensuite, il a continué sa mission. Mais c'est un homme qui a été en danger également par les bêtes sauvages. Tous les périls que l'on pouvait connaître, la Bible dit même les brigands, c'est-à-dire des gens qui veulent vous attaquer pour vous voler vos biens, pour vous voler votre argent. Il a vraiment connu une course qui était difficile. Il était un petit peu unique, puisque c'est quelqu'un qui a été utilisé par Dieu pour écrire les trois quarts du Nouveau Testament. Donc il avait beaucoup d'opposition, une opposition qui n'est pas comparable à celle de Jésus. Celle de Jésus était encore supérieure. Mais je pense que l'opposition que Paul a connue, il y en a peu dans ce monde qui la connaissent, à cause de la résistance qui venait contre lui pour l'empêcher de finir sa course. Néanmoins, cet homme, malgré toute la résistance, malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés, a pu dire « j'ai achevé ma course ». Il dit « j'ai combattu le bon combat ». Il dit « personne n'a combattu ce combat à ma place ». Et il dit « j'ai achevé ma course », c'est-à-dire ça a été ma décision. Je dois terminer ma course. Et il a terminé sa course, mais il l'a pas terminé grincheux. Il l'a pas terminé dans le manque. Il ne l'a pas terminé assailli par la maladie, et la maladie ayant rongé son corps. Eh bien, il est mort. Non. Il dit « j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi ». Et ailleurs, il dit « que nous devons finir notre course avec joie. » Mais quand on pense à la course de cet homme, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui lui permet de dire que l'on doit finir sa course dans la joie et avec foi? D'abord, c'est important, parce que si quelqu'un a la foi, il gardera la joie. Et si quelqu'un a la joie, il aura plus de facilité à exercer sa foi. La joie est un signe que l'on est dans la foi. Et la foi produit la joie. Les deux sont indissociables, tout comme la foi et l'amour sont indissociables. La foi et la paix sont indissociables. Il y a plusieurs facettes à la foi. Mais l'apôtre Paul dit, quoi que ce soit que j'ai rencontré dans la vie, rien ne m'a arrêté. Et on pourrait dire, oui, mais tu comprends, cet homme, c'était quelqu'un de particulier. Cet homme avait la révélation que vous et moi trouvons dans le même livre que nous avons encore aujourd'hui. Alors, ce que l'on peut comprendre, c'est que Paul, pour arriver à la fin de sa course, est quelqu'un qui a compris qu'il devait être fort. Et qu'il devait non seulement être fort, mais se donner lui-même les moyens d'être fort. Et c'est ce que nous avons vu au cours des messages précédents, ça n'est pas une option d'être un chrétien fort. Ça n'est pas glorieux qu'un chrétien soit toujours en train de demander la prière aux autres. À un moment, ce chrétien devrait avoir reçu, d'accord, c'est normal, quand on a besoin. Mais quand ça c'est un style de vie, ça n'est pas une marque de spiritualité ou de force spirituelle que d'être sans cesse en train de demander la prière aux autres. À un moment, on doit avoir suffisamment reçu pour aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Vous voyez comment ça marche, hein? Alors, regardons ensemble Proverbes chapitre 4. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être emporté avec le monde dans la tourmente de ce monde. L'apôtre Paul l'avait compris. D'ailleurs, il avait sans doute dû lire ce verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 4, et il dit au verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament en Marc, que dans le fond de ton cœur, il ne peut pas y avoir les soucis et la parole en même temps, puisqu'il nous est dit que la parole de Dieu étouffe, que les soucis étouffent la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand les soucis viennent vers toi, eh bien, arrange-toi pour ne pas les garder. Mais protège la parole de Dieu, protège ton cœur, protège ce qu'il y a dans ton cœur. Et il est dit, car c'est de lui, de ton cœur, car c'est la vie, pardon, garde la parole dans ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Si tu veux avoir un corps en bonne santé, il te faut avoir un cœur qui est fort, un cœur qui est gardé. Or, la rancune se trouve, peut aller dans le cœur. Le manque de pardon, c'est une histoire de cœur. Quelqu'un a besoin d'entendre cela ? Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose et tu remarqueras que tu peux habiter dans un endroit où il y a la police qui garde ton quartier, mais personne ne peut garder ton cœur. C'est-à-dire que dans des endroits, dans des domaines privés où il y a une sécurité qui veille la nuit, eh bien, les gens, s'ils ne gardent pas leur cœur, peuvent avoir quand même peur. Et la Bible dit, garde, toi, tu gardes ton cœur, mais plus que toute autre chose, c'est-à-dire jalousement, tu gardes ton cœur. Tu ne laisses pas l'incrédulité venir dans ton cœur. Tu ne laisses pas les soucis t'envahir. Tu ne laisses pas la peur. Tu ne laisses pas la convoitise. Tu ne laisses pas le jugement rentrer dans ton cœur. Tu le gardes plus que toute autre chose. Pourquoi ? Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Où est-ce que Dieu parle ? Proverbe chapitre 18. On l'a vu aussi. Écoutez, je trouve formidable que le Saint-Esprit nous ait conduits vers cette série-là. Si vous saviez combien j'apprécie la conduite du Saint-Esprit. Chapitre 18, on le connaît, verset 14. L'Esprit de l'homme le soutient dans la maladie, le soutient dans une crise financière, le soutient pendant la grippe A, le soutien dans des relations difficiles, le soutien face à toutes sortes de problèmes. L'esprit de l'homme le soutient, c'est-à-dire qu'aucune maladie ne peut vaincre quelqu'un qui est fort. Ça vaut la peine qu'on s'y penche, hein? Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alors, nous avons vu que pour être fort, il nous faut d'abord être bien nourri. Matthieu 4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, qu'elle nous plaise ou pas, tant qu'elle sorte de la bouche de Dieu, elle nous nourrit. L'homme vivra de toute, c'est-à-dire c'est un style de vie. Ma vie vient de la parole de Dieu. Sais-tu que quand tu lis la parole, il y a quelque chose dedans qui te nourrit. On devrait trouver notre nourriture dans la parole. Alors, il est important, on l'a vu, hein, de vérifier ce que nous mangeons et de ne pas manger n'importe quoi spirituellement. Nous assurer que ce que nous mangeons, c'est vraiment la parole de Dieu, ça n'est pas la tradition humaine, ça n'est pas des bonnes idées, hein, ça n'est pas non plus des vagues qui sont spirituelles qui sont conduites à l'extrême, mais c'est la parole de Dieu. Et la deuxième chose que nous avons, c'est qu'il ne suffit pas de manger, parce qu'on sait ce que ça donne. Quelqu'un qui passe son temps à manger, à quoi ressemble-t-il ? Hein ? Un bout de gras, tout simplement. Hein. Pour être clair, c'est uniquement cela. Mais que faut-il faire ? De l'exercice spirituel. C'est-à-dire, je pratique ce que je mange. J'utilise ce que je mange. Ça, c'est les deux vont ensemble. Il faut s'exercer. Et la Bible nous dit que l'exercice de la piété est utile à tout. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça n'est pas mal. Au contraire, je vous encourage, faites du sport. Bougez, faites de l'exercice. Mais ça n'est pas ce qui va te donner le succès dans la vie. Il faut que tu t'exerces à la piété, que tu pratiques la parole de Dieu. Mais il y a une troisième chose qui est extrêmement importante. Et ce mot ou ce verbe apparaît plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et les sportifs le comprennent. Hein, si vous regardez un petit peu la vie d'un sportif, que va-t-il faire ? Il va manger, il va s'exercer. Quelle est la troisième chose qu'il va faire ? Se reposer. Hier, j'ai une réaction qui était magnifique à l'église de Marseille. Je crois qu'ils étaient vraiment contents de ce message-là, parce qu'on ne l'entend pas. Ils m'ont dit, on ne l'entend pas dans les églises, celui-là. Alors, bon, quelles que soient les raisons, je n'en sais rien, hein, ou je ne les connais pas toutes, mais ce qui importe, c'est que nous ayons un régime spirituel qui est équilibré, que nous mangions bien, que nous mangions de tout, que nous pratiquions et que nous nous reposions. Le repos est tellement important que, bien sûr, on sait que la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est reposé. Il s'est reposé, pas parce qu'il était fatigué, attention, hein, pas parce qu'il a besoin d'être renouvelé, mais lui s'est reposé parce qu'il était satisfait et il avait fait tout ce qu'il y avait à faire. En revanche, on voit que dans la parole de Dieu, il est question que la terre soit mise au repos. Et quand on voit l'importance du repos dans la parole de Dieu, eh bien on se dit peut-être que je ferais bien d'y prêter plus attention. Vous vous rappelez que Jésus... D'ailleurs, je vous laisserai regarder les versets bibliques, mais regardez dans les évangiles le nombre de fois où Jésus a pris les disciples à l'écart et leur a dit « Venez et reposez-vous ». Jésus lui-même se mettait à l'écart des foules et il se reposait en Dieu. Alors, on va voir qu'il y a des subtilités dans le repos, mais c'est quand même suffisamment important. Quand on a averti Jésus que Lazare était mort, eh bien, il a dit « Oui, Lazare dort ». Mais il y a une autre version qui dit « S'il dort et se repose, il est certain de mieux se porter ». Alors, on connaît d'un point de vue naturel, on connaît l'importance du repos et on connaît l'importance du sommeil. Que se passe-t-il pendant le sommeil ? On se régénère, notre rythme cardiaque change, nos cellules se... On est rafraîchi, tendre, notre sang circule. C'est extrêmement important. Quelqu'un qui manque de sommeil peut compromettre sa santé. Il ne suffit pas de bien manger, il ne suffit pas de s'exercer. Imaginez quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Combien de temps peut-il tenir ? Pas longtemps. Alors, il y a des symptômes. Hein. Il y a des symptômes. Quand quelqu'un manque de sommeil, il y a une première phase qui se traduit par du stress. C'est-à-dire qu'on gère beaucoup moins les situations que l'on rencontre. Ce qui, normalement, on aurait dû être réglé, on n'aurait pas dû paniquer, on n'aurait pas dû s'inquiéter, devient sensible. On supporte moins les changements, on supporte moins les mauvaises nouvelles. On est beaucoup plus irritable quand on manque de sommeil. On est beaucoup plus anxieux et la tension monte. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase, c'est-à-dire qu'on a tendance à remettre au lendemain. Quand on est organisé, qu'on est discipliné et sérieux avec les choix de la vie, on fait les choses au fur et à mesure, on ne les remet pas au lendemain. On ne laisse pas les tâches s'accumuler sur notre bureau ou à la maison, on traite les dossiers au fur et à mesure qu'ils viennent. Ça, c'est une bonne hygiène de vie. Mais quand quelqu'un qui normalement fait les choses au fur et à mesure, et qu'il manque de sommeil, qu'il manque de repos, eh bien cette même personne va être dépassée par ce qu'il fait et va commencer à remettre au lendemain, et on remet, et on remet, et on remet, et les problèmes s'accumulent parce que les factures qui auraient dû être payées ne sont plus payées à temps. Donc on se prend peut-être 5 ou 10% de majoration, et du coup on est encore plus irrité, et la situation s'empire. Juste une petite note, le diable aime les gens fatigués. Il aime les gens qui en font de trop. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Et il aime les gens qui ne savent pas se reposer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus rien à faire. Ça roule tout seul pour lui. Les gens s'en mêlent les pinceaux tout seuls. Les gens s'irritent, font de mauvais choix, s'emportent, rompent des relations et se trouvent dans un cercle. C'est un petit peu comme sur une pente. Vous savez, si quelqu'un trébuche dans une pente, eh bien, il va faire un pas et puis il va mal se rattraper et puis la pente étant abrupte, le rythme de la course va augmenter au point qu'il n'y a plus de contrôle et sauf un arbre qui nous retienne mal en plus, eh bien, on peut vraiment s'écraser en bas. Hein. Également, dans cette deuxième phase-là, la personne n'a plus de vie sociale. Je me rends compte que les chrétiens, en général, ne savent pas vivre sur terre. Ça, je l'ai dit à Marseille, mais je le dis ici également. Les chrétiens spirituels ne savent pas vivre sur terre. Ils ne comprennent pas comment avoir un équilibre entre servir Dieu et avoir une vie sociale. Mais ça, c'est un signe qui appartient à une deuxième phase, à la phase numéro 2. Donc, c'est sérieux. Quelqu'un qui dit, j'ai plus de temps pour avoir des amis, j'ai plus le temps pour aller voir un film, j'ai plus le temps pour aller pique-niquer, j'ai plus le temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une fatigue extrême. Alors, je ne parle pas des gens qui s'écoutent, hein, qui dès qu'ils bougent le petit doigt, ils sont fatigués. Et c'est OK de revenir du travail et d'être fatigué. Je veux dire, on travaille, il y a une journée, et il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres et on n'en meurt pas. Une bonne nuit de sommeil, c'est OK. Il n'y a aucun problème avec cela. Mais je parle d'une fatigue extrême où on n'arrive plus à s'endormir. Mais quand on s'est endormi, on n'arrive plus à se relever. Je parle de ce genre de fatigue-là, où tout ce que l'on a envie de dire, c'est « je m'en moque plus tard hein ». Et puis encore un autre élément qui appartient à cette phase numéro 2, qui est « je suis extrêmement sensible à ce mot-là », c'est le cynisme. Quand les gens deviennent cyniques, et quand j'entends... Alors, il y a des gens qui sont cyniques à cause de blessures passées et c'est tout le temps comme cela. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire quelque chose avec parce que normalement, ils n'ont pas beaucoup... vous savez, quand on est un peu incisif dans la vie, on n'a pas beaucoup d'amis en général, sauf des gens qui sont comme nous. Et ça n'est pas des amis. Hein. Mais je ne parle pas cela. Je parle de quelqu'un qui, normalement, a cette vie sociale, qui, normalement, est en paix avec lui-même, est en paix avec les autres. Mais c'est quelqu'un qui, vous savez, on dirait, il lance des vannes. C'est quelqu'un qui est coupant, qui a quelque chose de dur à dire sur tout ce qu'il, chaque mot qu'il sort de sa bouche. Et quand quelqu'un est cynique alors que normalement il ne l'est pas, eh bien c'est un signe qu'il est dans cette phase numéro 2 d'un manque de repos. Vous comprenez pourquoi le diable aime les gens qui sont fatigués? Et puis il y a une troisième phase, c'est que tout simplement tout lâche. Et c'est quelqu'un qui peut prendre des mauvaises décisions comme... ne plus redresser la barre dans ses relations avec son conjoint, ne plus faire sa part. C'est quelqu'un qui peut tout envoyer balader, qui part de son travail comme cela, sur un coup de tête, parce qu'il n'arrive plus à gérer. S'il faut, ce stress vient d'ailleurs, mais il n'arrive plus. Ou alors, moi, puisque c'est comme ça, je retire mes enfants de cette école, ou puisque c'est comme ça, eh bien, j'arrête de prendre tel médicament, ou puisque c'est comme ça. Et c'est quelqu'un qui, parce qu'il ne sait pas se reposer, va vivre comme un yo-yo. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, et souvent plus en bas qu'en haut en plus. Hein. Si bien que ça rend toutes ces relations extrêmement difficiles autour de lui. Alors, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 11. Je parle de quoi? Je parle d'avoir un esprit fort. Croyons-nous que l'apôtre Paul avait quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui? Bien sûr qu'il avait une onction qui est différente, mais personne ne vit de l'onction. Ce qui fait vivre un prédicateur, ce n'est pas son onction, c'est son caractère. C'est le fait qu'il soit fort dans son esprit. Ça n'est pas autre chose. Quelquefois, on regarde les prédicateurs et on se demande pourquoi tel prédicateur est-il tombé? Ça n'est pas à cause de l'onction. L'onction n'a jamais fait tomber quelqu'un. C'est le caractère, c'est-à-dire c'est le fait qu'il n'était pas assez fort pour résister à certaines choses ou pour dire oui à certains bons choix. Vous comprenez? Encore une fois, il faut de la force pour faire la volonté de Dieu. Personne ne peut faire la volonté de Dieu avec ses propres forces. Personne ne peut vivre une vie chrétienne uniquement d'après ses propres forces humaines. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 11, et Jésus dit ici, « Venez à moi, vous tous qui êtes en bonne santé, forts spirituellement et qui m'aimez. » C'est ce qu'il est dit. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que souvent les gens fatigués arrêtent d'aller à Jésus. D'ailleurs, normalement, c'est un signe parce qu'on ne les voit plus à l'église. Et c'est l'inverse qui doit se produire. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai davantage à faire. Hein? C'est ce que le Seigneur dit? Hein, quelquefois, on a l'impression que c'est ce que le Seigneur nous dit. Alors, c'est pour ça qu'on ne va pas à lui. Hein. On dit, oulala, au cas où il rajoute quelque chose à mon emploi du temps, alors là, je vais te dire, je vais laisser les autres passer devant moi. Et quand j'aurai moins à faire, j'irai à lui. Non, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous avez remarqué que les deux verbes vont ensemble, fatigué et chargé. Parce que c'est quelqu'un qui a une charge qu'il ne peut plus porter ou qu'il porte mal. Et je vous donnerai du repos. Remarquez que Jésus dit, je suis celui qui peut donner le repos dont vous avez besoin. Serait-il possible que le vrai repos ne se trouve qu'en Jésus? Serait-il possible? Il dit ensuite, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il y a quelque chose que Jésus nous donne à faire qui ne va pas nous écraser. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a au moins deux choses que l'on peut apprendre dans ce verset. C'est que quand le Seigneur nous donne quelque chose à faire, et croyez-moi que le Seigneur aura toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire que Dieu ne nous appelle pas uniquement à construire notre vie privée sans en même temps construire son royaume. C'est impossible parce que notre vie privée doit construire son royaume pour que les choses soient équilibrées. Mais Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui va créer un déséquilibre dans notre vie. Ce qui veut dire que si je me trouve dans une situation où je ne peux plus me reposer, cela veut dire que je fais quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Vous allez dire, oui, mais c'est mon travail. Ah, au travail, c'est nous qui décidons ce que nous faisons. Tu vas dire, non, c'est mon employeur. Non, je dis, c'est moi qui décide ce que je fais. Non. C'est moi qui décide ce que je fais. Je répète, certains continuent à dire, c'est mon employeur. Je dis, non, je décide de ce que je me donne. Je décide du travail. C'est moi qui ai signé le contrat, c'est pas mon employeur. Lui, il a signé son contrat pour sa part, mais moi, j'ai signé mon contrat pour ma part. Et la question qu'on veut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Alors, maintenant, Dieu est celui qui a dit, Il dit, je vous donne mon, j'ai un joug, j'ai quelque chose que je vous demande de porter. Mais il dit, ça ne va pas vous écraser. Et ça va, vous savez, quand Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, vous avez remarqué qu'on s'épanouit dans tous les domaines de notre vie. On s'épanouit au travail, on s'épanouit dans la famille, on s'épanouit financièrement, on s'épanouit dans la santé, on s'épanouit dans le caractère, on s'épanouit dans le style, on s'épanouit, peu importe. Dieu, la Bible dit que nous avons en Dieu la vie, le mouvement et l'être. D'accord? Mais il y a encore une chose que Dieu dit ici. Il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Ce qui veut dire que si je me retrouve dans une situation de stress continuel, hein, il y a une qualité de stress d'abord qui est bonne, qui fait qu'on se bouge. Hein. Donc tout le stress n'est pas mauvais, mais le stress par lequel on est complètement dépassé et ce qu'on n'arrive plus à gérer, vous savez ce que cela veut dire ? Ça veut dire que j'ai déplacé mes priorités et que j'ai pris sur moi quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé de prendre. CQFD, il y a des moments où il faut savoir dire non. Par exemple, je sais que je peux commencer là une église à Toulon. Hein. Nous pouvons le faire. Et je dis non pour l'instant. J'ai dit oui, mais tu sais, il y a quelqu'un qui a besoin, il y a d'autres personnes qui sont là, qui attendent. Je ne suis pas le sauveur. Mais une chose que j'ai compris, c'est que Jésus qui c'est le sauveur et que personne d'autre ne l'est. Et il faut que certains chrétiens perdent ce complexe messianique que le monde, s'ils ne font pas le travail, le monde va être perdu sans eux. Parce que pendant que je fais ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire, je ne fais pas bien ce qu'il m'a demandé de faire. Et il y a des moments où il faut savoir dire, tu sais quoi, je ne peux pas le prendre. Et si la personne dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? On va demander à Dieu et il va pourvoir. Il y a des moments où il faut savoir dire non au travail, il faut savoir dire non à l'église. Et en général, j'essaie de faire attention à cela. Il m'est arrivé de dire à certains chrétiens, ne le fais pas cela. Tu n'es pas obligé, ne le fais pas, arrête. Hein? Mais ça ne veut pas dire que je sais tout ce qui se passe non plus. Mais on doit être attentive à ce genre. Et puis quelquefois, c'est non pendant un certain temps. On a le droit de dire non. Jésus n'a pas répondu aux besoins. Il a répondu à la foi des gens. Même Jésus ne répond pas aux besoins. Et dire non à l'église, et on a je ne sais combien de groupes maintenant, hein, ils ne durent pas plus d'une heure. Pourquoi ? Parce que si en une heure, le Saint-Esprit n'a pas fait ce qu'il avait à faire, il faut qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Humainement parlant, on ne peut pas avoir une vie équilibrée et être spirituel. Ça n'est pas possible. Vous voulez être fort spirituellement, vous avez besoin de temps pour vous reposer physiquement, vous avez besoin de temps, et je ne parle pas de paresse. On peut être équilibré sans être paresseux. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont tendance à avoir le côté négatif quand il s'agit du corps et de l'âme. Hein? Mais on a besoin de temps pour se reposer physiquement, on a besoin de temps pour se reposer, pour que notre âme soit rafraîchie. C'est-à-dire que l'on passe du temps à rire ou qu'il n'y ait aucune demande sur nous. Et on a certainement besoin de temps pour se reposer spirituellement. Ça, c'est la première chose, se reposer spirituellement. Et vous allez dire, mais tu sais, pasteur, tu n'as pas peur que les gens profitent de ton message pour ne plus venir à l'église. Les gens, ils font ce qu'ils font, de toute façon. Ceux qui comprennent le message, ils continuent à venir se nourrir. Et ceux qui veulent profiter du message, de toute façon, avec ou sans, ils vont le faire. Mais je dois vous donner le conseil de Dieu et vous dire, faites attention à votre vie, esprit, âme et corps. Et je vais vous dire, surtout pour les gens qui ont un travail dans lequel ils aident beaucoup les autres. Hein? Par exemple, des assistantes sociales, des policiers, des avocats, des docteurs, des pasteurs, des gens qui ont des contacts et qui doivent vraiment se sacrifier et être engagés pour les autres. Ceux-là plus que d'autres. doivent faire attention à leur équilibre. Parce qu'en général, quand ils rentrent à la maison, s'ils ne font pas attention, ils viennent avec les problèmes de tout le monde. Ça ne doit pas et ne peut pas être le cas. D'accord? Et Jésus lui-même a pris du temps pour se reposer. Et il a dit, il a toujours été sensible. Il a même été sensible à la faim des gens. Est-ce que vous vous rappelez que quand la foule suivait Jésus, et il a arrêté tout le monde et il a dit à ses disciples, ils sont fatigués. Ça fait 3 jours qu'ils me suivent, ils sont fatigués. Faites-les asseoir et on va les nourrir. Alors là, il y avait plusieurs choses, hein. Il était conscient de la fatigue, il était conscient aussi que quelqu'un qui se nourrit mal, il est fatigué. Et on referme la parenthèse. Et certains réécouteront la gazette parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. D'accord. Alors, regardez également le psaume 23. Hein. Donc, ma question est, qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire et qu'est-ce que j'ai rajouté parce que j'ai trouvé que ça n'était pas suffisant? Tu sais, quand Dieu te donne des moments de calme, puis il y a des moments où Dieu nous demande de venir à lui, hein, pour se reposer. Alors, je vais juste te donner un conseil, et il y a plusieurs manières d'apprendre. Je te laisse deviner de quelle manière j'ai appris. Quand Dieu te demande de mettre des temps à part avec lui, juste un petit conseil. Crois qu'il sait tout, et surtout l'avenir. Et cela veut dire que Dieu, non seulement est en train de nous réparer, de nous rafraîchir, de nous fortifier, mais il sait ce qu'il va avoir dans les 2, 3, 4 jours, la semaine, le mois d'après. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui fait du forcing. Dieu est un bon père. Et quand Dieu nous demande quelque chose, il sait qu'on peut le faire, mais dans ses conditions à lui. Et Dieu ne peut pas nous demander certaines choses parce qu'on n'est pas en condition physique, spirituelle ou de l'âme pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas suffisamment reposé. On a bien mangé, on pratique, mais Dieu dit quelquefois stop et s'il vous plaît, faisons-le. D'ailleurs, on le voit ici, psaume 23. Tout le monde le connaît, mais dans le contexte dans lequel nous sommes là, il est dit, verset 1, « L'Éternel est mon berger. » Est-ce que Dieu est un bon berger ? Hein ? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Comment est-il possible de ne manquer de rien ? Comment notre berger peut-il nous conduire ? Peut-il pourvoir ? Ben, il dit, c'est simple, premier verset qui suit, « Il me fait reposer. » Elle est bonne, hein? La première chose qu'il commence par faire, vous avez remarqué que d'ailleurs pour les chrétiens, pour les juifs, hein, le premier jour de la semaine, ça a commencé par un jour de repos. Et il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Non mais ça c'est son idée à lui, hein? On n'est pas en train de réinventer la vie chrétienne. Vous savez pourquoi tant de chrétiens sont tristes, sont abattus ? Parce qu'ils n'ont jamais le temps de rire. Ils arrivent à l'église, attendez, faut voir. Hein. Pourquoi les églises n'attirent-elles pas par la vie, par la joie ? Parce que les chrétiens, ils passent leur temps à soi-disant servir Dieu, ou alors, eh bien, ils passent tellement de temps à faire beaucoup de choses dans leur vie privée qu'ils n'ont plus le temps de servir Dieu, donc il y a leur conscience qui les tarabusque. Tarabuste. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux tumultueuses. Non, c'est Dieu qui nous dirige près des eaux paisibles, là où il y a à boire. Qu'est-ce que l'on fait avec l'eau ? On boit et on se rafraîchit. Est-ce que l'on se rappelle aussi que la Bible dit que quand nous parlons en langue, nous sommes rafraîchis avec ces torrents d'eau qui sortent, des fleuves d'eau qui sortent de notre être inférieur ? Une des manières d'être rafraîchi dans le Seigneur, c'est de se mettre à part dans un coin tranquille. Simplement, et de se laisser rafraîchir par ces fleuves d'eau vive qui sortent de notre être inférieur, intérieur. Qui ici peut parler en langue? Maintenant, on va le faire. Allez, tout de suite. Alors, il ne s'agit pas d'intercéder, hein? Il ne s'agit pas d'intercéder. Il ne s'agit pas de prier pour quelqu'un. Ok, en effet. Certains, ils, tout de suite, ils sont passés en quatrième, là. Ok, on va se laisser rafraîchir. Faites comme si vous buviez. Ah, sora, chete prosata. Le manda lesata. Oh, vroshangala, de devozende le bababa. Et la Bible dit que l'on boit de ces fleuves d'eau vive. Amen. Alors écoutez, vous avez pratiqué chez vous, hein. Mais ça, c'est à faire. Comment est-ce que le Seigneur nous rafraîchit? Il restaure mon âme. Mais le verset commençait, le chapitre commençait par l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Donnons du temps à Dieu de rafraîchir notre âme. Et parfois, eh bien, il est bon de ne pas accepter toutes les invitations. Ce que je trouve assez marrant, c'est que certaines personnes reçoivent une annonce de séminaire, de conférence, et le prennent pour une invitation. Oui, hein? Ça n'est pas parce qu'on reçoit l'annonce de tel ou tel séminaire que c'est une invitation à y aller. On ne peut pas être partout à la fois, et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne doit pas être partout à la fois. En général, d'ailleurs, on passe à côté de là où on devrait être quand on a été là où on ne devrait pas être, hein. Rappelons-nous, nous ne sommes pas conduits par les opportunités, nous ne sommes pas conduits par les besoins, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Psaume 4, il y a, alors c'est important d'être renouvelé physiquement. Alors il y a des personnes qui ont besoin de 6 heures de sommeil et ils sont rafraîchis. Il y en a d'autres qui ont besoin de 8 et de 10. On n'est pas moins spirituel parce qu'on a besoin de 8 heures ou de 9 heures de sommeil. Parce qu'il peut y avoir comme une culpabilité en disant « Oh là là, comment tu te réveilles à 9h du matin, toi ?» Ben, ce qui compte, c'est ce que je sais qui est juste devant Dieu. Encore une fois, n'ayons pas peur d'être paresseux. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est très souvent cela. Hein? Mais c'est différent. Si je travaille bien et si je fais ce que Dieu me demande de faire, si je suis quelqu'un qui travaille dur et qui est consciencieux dans tout ce que je fais et que j'ai besoin de temps, prenons-le. Dieu a demandé une seule chose à Noé, construire une arche. Et la construction de l'arche était une prédication en elle-même, parce qu'il nous est dit que Noé était un prédicateur de la justice. Vrai ou faux? Ne serait-ce que le fait de construire une arche était une prédication. Il a prêché à toute sa génération par cette seule arche, et c'est la seule chose que Dieu lui a demandé de faire. Vous ne croyez pas qu'il faut que de temps en temps, nous évaluions nos choix? Vous avez trouvé psaume 4. Il est dit ici: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Proverbe chapitre 1, verset 33, je vous le lis, dit: mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il y a une différence entre absence d'activité et repos. Il y a des gens qui font rien toute la journée, ils sont pas reposés, ils sont fatigués. Et pour d'autres, le repos est une fuite. Le sommeil est une fuite. Mais le repos n'est pas forcément synonyme d'absence d'activité. Pourquoi ? Parce que le vrai repos est dans le cœur, d'être en paix. Il est dit que c'est Dieu. Il y a des gens qui prennent des somnifères et qui peuvent dormir 15 heures, qui font des cures de sommeil, qui dorment 15 heures par nuit, c'est-à-dire qu'ils commencent à manger leur journée. Ils se reposent. Non seulement ils sont dans la brume, dans le brouillard, mais en plus, ils sont fatigués. Le vrai repos est à l'intérieur. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, non seulement il faut que nous soyons reposés physiquement, que nous soyons rafraîchis dans notre âme. S'il vous plaît, choisissez-vous des loisirs. Ne passez pas évidemment votre vie en loisirs, mais il en faut. Et ayez des moments où vous pouvez vous détendre et vous pouvez rire. C'est la meilleure des... Vous serez plus spirituel que de passer votre temps de réunion d'église en réunion de prière et en séminaire. Je vous le dis, il y a un temps pour tout. Mais également, si quelqu'un est reposé physiquement, est rafraîchi dans son âme, mais est tourmenté dans son cœur, c'est quelqu'un qui ne pourra pas être vraiment rafraîchi. Et il est dit ici, le vrai repos ne vient pas. C'est pas de, du fait... Vous savez qu'on peut être entouré d'ennemis et être au repos. Et d'ailleurs, quand on a des moments de repos en Dieu et avec Dieu, c'est-à-dire des temps de silence devant lui, alors ça, ce sont des temps où notre chair, elle se rebelle. Lève-toi, tu vois pas tout ce que tu as à faire, et puis t'as pas encore rangé ça, et puis tu aurais dû téléphoner un tel, et puis t'as encore tous ces cours qui sont à revoir, et puis il faut que tu ailles acheter telle chose, et puis on regarde ta voiture, t'as vu dans les cas, Il y a toutes ces choses. C'est étonnant quand on veut se reposer devant Dieu, c'est étonnant la mémoire qu'on a. Tout revient à la surface. Et puis des gens qui nous ont jamais appelés se mettent à nous appeler à ce moment-là. Qu'est-ce que l'on fait ? On débranche le téléphone, on arrête l'ordinateur et on se dit... Et puis alors, qu'est-ce que l'on fait ? Je vais juste vous donner un tuyau. Pendant que vous avez, votre chair fait tous ces exercices de mémoire, eh bien, prenez note. Prenez note, prenez un carnet, un stylo et dites, bon d'accord, tiens, je vais écrire, c'est vrai, il faut que je fasse ça, il faut que... Vous allez voir, clac, immédiatement, c'est sur le papier, on est tranquille. Et on reste devant Dieu. On médite sur un verset ou on médite sur la bonté de Dieu. Si on pense à un problème qui nous revient, Seigneur, je te le donne. Je ne vais pas prier pour cela maintenant, simplement je te le donne, tu t'en occupes. Et on laisse la présence de Dieu nous fortifier et nous rafraîchir. Combien de chrétiens n'ont pas mal évalué des circonstances dans leur vie? Combien de chrétiens ne paniquent pas parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se reposer? Sans compter que, il y a des chrétiens qui disent, tu sais, moi, Dieu ne me parle jamais. Bon, première chose, Dieu nous parle dans la parole. Ça, c'est déjà une chose. Hein. Dieu ne me parle jamais, Dieu ne me parle... Si, Dieu nous parle dans notre esprit. Puis je vais te dire, tu sais que si tu dormais plus, Dieu te parlerait davantage. Vous devriez reprendre toutes les écritures où il est dit que les gens ont des rêves et des visions pendant leur sommeil. Parce que c'est un des langages du Saint-Esprit. Le Seigneur nous parle dans les rêves et il nous parle dans notre sommeil. Ça vous est déjà arrivé de vous endormir et vous vous réveillez, vous êtes en train de parler en langue? Vous êtes en train de parler à Dieu? Hein? Il y a toute une activité qui s'est... Pendant que votre corps était en train de dormir. Sans compter que si certains ne dorment pas à cause des soucis, c'est vraiment pas malin, parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui ne dort pas. Alors, autant qu'il y ait un seul qui soit réveillé. J'avais entendu ce témoignage hein, d'une. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis dès que les sirènes résonnaient, tout le monde partait se cacher dans les abris, alors que ce soit en plein milieu du jour ou en plein milieu de la nuit. Et les voisins n'avaient pas vu cette petite dame là qui normalement venait avec eux, descendait dans les abris se protéger. Et les voisins se sont demandé, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que elle est malade? On aurait dû passer la prendre, etc. Et finalement, quand tout le monde est sorti des abris, ils sont allés la voir, ils l'ont trouvée, elle était en pleine forme chez elle. Et ils lui ont dit, mais comment se fait-il que vous ne soyez pas venu? C'est dangereux et tout ça. Elle a dit, non. Elle dit, j'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Et je me suis dit que, après tout, c'est lui qui veille sur moi. Ça ne servait à rien qu'on soit à deux, qu'on reste à deux réveillés. Donc, aucun problème, je me suis endormie. Je suis restée chez moi et j'ai dormi. Vous allez me dire, c'est une question de foi. Hein, d'accord? Mais c'est pour vous dire, il y a des tas de choses qui se passent pendant que l'on se repose. Combien de fois, par exemple, le Saint-Esprit est dans des cultes d'église comme cela, et les gens sous la puissance de Dieu tombaient, et pendant qu'ils étaient à terre, dans le repos de Dieu, le Saint-Esprit opérait de véritables chirurgies dans le cœur des gens, dans l'âme des gens. Ne méprisons pas le sommeil, ne méprisons pas le repos, mais rappelons-nous que le vrai repos n'est pas le repos physique, le vrai repos vient de l'intérieur, et ce repos affecte le corps. Regardez également, où je vais vous le lire, hein, le relire, Proverbe 1:33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Pourquoi ne craint-il pas aucun mal? Pourquoi ne craint-il aucun mal? Est-ce parce qu'il n'y a rien de mal qui se passe? Non, parce qu'il est dans le repos, parce qu'il écoute le Seigneur. Regardez avec moi Ésaïe 40. Je vous rappelle que Dieu est un Dieu de paix, que l'évangile est un évangile de paix et que nous sommes appelés à vivre en paix. Ésaïe 40. Et je voudrais vraiment que vous tiriez profit de ce message afin que vous soyez fort dans l'adversité. Mais rappelons-nous, être fort sans être reposé, sans être nourri, ça ne va nulle part. Mais l'apôtre Paul a pu arriver à la fin de sa course, qui était une course extrêmement difficile, et il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire que la force de combattre n'a rien à voir avec l'âge. Bon, ça, je vois que c'est allé très loin. Ok, Ésaïe chapitre 14, et on connaît ce verset. Regardez verset 29, il est dit, Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est déjà fort. Non, à celui qui est fatigué. Mais tu sais, moi, je ne sais pas quand est-ce que tu es fatigué. Tu es le seul à savoir quand tu es fatigué. Tu es le seul à savoir quand c'est ta chair qui veut être paresseuse et il faut la secouer. Tu es le seul. C'est-à-dire que tu es vraiment un adulte devant Dieu. Tu es responsable devant Dieu de ce qui se passe dans ta vie. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Vous avez déjà entendu les adolescents râler? Et les jeunes hommes chancellent, c'est-à-dire la force naturelle ne suffit pas. Même quelqu'un qui est dans la pleine force de l'âge, ça ne suffit pas. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alors comment un aigle prend son envol? Vous l'avez vu? Il fait de grands efforts. On voit ces grandes ailes qui bougent, qui battent l'air. Il fait beaucoup d'efforts. Et à un moment, il trouve un courant et il se laisse porter dans le courant. Et dans notre vie en Dieu, eh bien, on va faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais à un moment, il va falloir que l'on trouve un courant en Dieu sur lequel on va se laisser porter. Et je vais vous dire une chose, les moments de louange que nous avons à l'église, notamment, ça n'est pas les seuls, vous devriez les avoir chez vous, des temps devant Dieu. Mais les moments de louange sont des moments de renouvellement extraordinaire. Des moments pendant lesquels on peut se laisser porter par la foi commune, par le mouvement du Saint-Esprit, et on peut être vraiment renouvelé. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, et eux, ceux qui se confient en l'Éternel, et eux, ils courent, mais ils ne se lassent pas, contrairement aux adolescents. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous avez peut-être entendu parler de ces voyages en Israël avec Billy Brim. Hein. Attendez, c'est une femme qui a 72 ans, quelque chose comme cela. 70 ? Bon, 70. Deux ans près, alors je ne sais pas de plus. Hein. 70 ans. Écoutez, quand elle démarre la journée et qu'elle descend du bus, hein, on monte dans le bus, on va sur un site de visite, on descend du bus, il ne suffit pas d'avoir des tennis pour la suivre, hein. Il suffit d'être fort, parce que cette femme-là a un turbo diesel. Une fois qu'elle est partie, les plus jeunes sont derrière elle et marchent sur leur langue et ils se demandent comment elle fait. Elle arrive le soir, mais si on ne la retient pas, elle nous donne un enseignement le soir. Et cela pendant toute la durée du voyage. La fatigue n'est pas tant une question d'âge qu'une question de façon de voir. C'est une question d'attitude, de mental, comme diraient les sportifs. Mais ici, il est dit, il est possible de courir sans se lasser, à condition de faire des pauses intelligentes, à condition d'être nourri. Alors, c'est vrai qu'il y a cette crise financière dans le monde, et maintenant, eh bien, il y a cette grippe qui, à mon avis, qui m'a d'ailleurs été confirmée de sources sûres, est un point de diversion. Vous voulez que les gens cessent de parler d'une crise ? Et en plus, ça fait vraiment vendre des médicaments quand il y a un grand stock. On referme la parenthèse. Mais la Bible nous dit « Tu ne crains aucun mal ». Si tu es convenablement nourri, si tu exerces ta foi, là, vous savez qu'une prière que je fais par moment, c'est « Seigneur, conduis-moi dans des expériences de la foi, de manière à ne pas rester au même niveau de foi. » Parce que si j'ai été guéri d'un rhume il y a 20 ans, et que maintenant, j'ai besoin d'être guéri de quelque chose de beaucoup plus important, ben, il ne s'agirait pas que je sois restée sur mon expérience passée d'il y a 20 ans. Hein? Mais ça, il faut demander au Saint-Esprit. Seigneur, guide-moi vers des expériences de la foi. Et amène-moi dans des domaines où je vais devoir exercer ma foi. Alors, c'est très inconfortable pour la chair. Hein? Mais bon, on ne lui demande pas à la chair ce qu'elle veut. Néanmoins, faisons-le. Et quand on entend des choses comme la crise, la grippe, et puis demain sera autre chose, on ne craint aucun mal, on est exercé, on s'est habitué à pratiquer la parole de Dieu. Et puis des temps de repos. Est-ce que vous avez besoin de repos ? Mais il ne s'agit pas que de vacances dans le naturel que l'on a besoin. Il y a des gens d'ailleurs, ils vont en vacances, ils reviennent, ils sont plus fatigués. Hein. Vous avez déjà vu des gens qui arrivent à l'aéroport pour prendre l'avion, ils sont KO de chez KO. Pourquoi ? À cause de toute cette anxiété, parce qu'ils sont exténués. Non, 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 non. Alors, vraiment, je vous encourage à peser ce message devant le Seigneur. Et il est dit ici, je vous le lis, psaume 4, verset 3, « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » On a du mal là sur ce coup-là. Hein? Le psaume 63, versets 1, 6 et 7 dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Proverbe 3, verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Donc il ne s'agit pas que de se coucher, mais il faut que le sommeil vienne et qu'il soit régénérateur, qu'il soit doux, qu'il ne soit pas tourmenté. Et c'est possible lorsque les priorités sont à leur place et que nous faisons de bons choix. Alors voilà, je vous laisse avec ce message. Si vous voulez achever votre course et l'achever dans la joie, avoir la force nécessaire pour combattre le bon combat, qui est bon. Si vous voulez avoir la force nécessaire pour exercer votre foi, si vous voulez avoir la force nécessaire pour résister à la peur, si vous voulez avoir la force nécessaire pour faire la volonté de Dieu, il faut être fort pour faire la volonté de Dieu. Je vous dis, gardez vos priorités en ordre. Assurez-vous d'être bien nourri spirituellement. Exercez-vous à la piété et assurez-vous que vous êtes reposé, notamment dans le Seigneur. Et vous serez beau, 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 beau. Et nous serons beaux. Hein? Et le monde viendra nous voir et dit, oulala! En général, il dit, toi, t'es amoureux, toi, non? C'est plus gênant de le demander à un homme marié, mais enfin, bon. Hein? Le monde ne se gêne pas, mais on devrait intriguer les gens par notre fraîcheur. Là, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier si nous avons ajusté notre emploi du temps. Eh bien, nous te demandons la sagesse. Nous te demandons, tu as dit que si nous te demandions la sagesse, tu nous la donnerais sans reproche. Tu ne nous accuses pas, tu vois nos bonnes intentions, mais il est évident qu'elles ne suffisent pas, Seigneur. Il faut que nous fassions de bons choix. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à se dire, ok, dans quel domaine j'ai besoin de revoir mes horaires, mon agenda, j'ai besoin de m'assurer que je me nourris correctement ou que je pratique dans tel domaine de ma vie. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es notre berger et nous ne manquons de rien parce que nous te suivons. Dans le nom de Jésus, je te remercie de bénir chacune des personnes ici, de les encourager, de les rafraîchir. Et puis, quand ils dorment, donne-leur des visions qui vont leur révéler qui ils sont, qui tu es, qui va leur parler de l'avenir que tu as pour chacun. Seigneur, fais-le dans le nom de Jésus. Amen.